Mesdames et messieurs, bienvenue à cet tout nouvel épisode des critiques de Yugi. Épisode du 1er décembre, l'épisode spécial Temps des Fêtes, parce que le Temps des Fêtes commence, ça, ben, du moins il s'en vient très très prochainement. Donc comme à chaque année, on fait un petit spécial Temps des Fêtes, où on va vous parler de films et de séries thématiques Temps des Fêtes. Et ce, en vue de notre épisode du 1er janvier.
Bien sûr.
Épisode coup de cœur, on garde encore la tradition.
Yes, c'est important les traditions.
Toujours très important. Donc, épisode du 1er janvier sera épisode spécial coup de cœur 2023. Et nos deux capsules express du mois de décembre. Si on est capable de trouver d'autres choses du temps des fêtes, tant mieux. Sinon, allons ailleurs parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose de super, très très bon en matière de temps des fêtes cette année.
Ben, j'ai écouté un film qui n'est pas dans la liste d'aujourd'hui, fait qu'au pire, ça pourra...
Au pire, ça pourra être ça ta carte. Je verrai ce que je fais à la mienne lors du 10. Mais pour l'instant, avant de commencer tout ça, vous connaissez la tradition habituelle de chaque début d'épisode. Vous êtes sur une plateforme numérique en train de nous écouter, Spotify, Apple, Google, Balado, autres. C'est sûr qu'il y a autres. Il y a un petit bouton qui s'appelle abonner, un petit bouton qui s'appelle télécharger, sinon c'est un rating d'étoiles. Cliquez sur un de ceux-là, ça nous aide beaucoup, 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 beaucoup à aller chercher encore plus d'auditeurs, à apparaître plus souvent dans les barres de recherche. On a aussi une page Facebook qui s'appelle La Critique de Yugi. Faites une petite recherche, allez chercher ça, abonnez-vous et surtout partagez toutes les posts qu'on fait, partagez la page, allez chercher plus d'abonnés sur cette page-là pour aller chercher de nouveaux auditeurs également. C'est de la belle publicité gratis. Donc, merci beaucoup de le faire. Si c'est pas fait, merci de l'avoir fait. Si c'est déjà fait.
Ouh. Après, une petite gorgée d'eau.
Donc, on commence ça. Je pense pas que ça va être un super de gros épisode mensuel parce que, honnêtement, ce qu'on a écouté, pas grand-chose de super bon à dire. Généralement, ça raccourcit beaucoup nos critiques. Mais bon. On verra ce que ça va donner.
Oui, mais des fois, il y a des commentaires qui ne sont pas nécessairement positifs qui peuvent meubler beaucoup de temps.
Absolument. Donc, on va commencer avec un premier film qui est disponible sur Disney+, qui s'appelle The Naughty Nine. Donc, les neuf petits vilains.
Ouais, je sors, voilà, je sors mes notes.
Pendant que tu sortes tes notes, c'est un film qui vient tout juste de sortir, 2023, donc qui est sorti fin novembre, spécialement pour Disney. Un film de 1h23 qui m'a paru, mon Dieu, éternel.
16h28.
C'est un film réalisé par Alberto Belli.
Bien sûr.
Il n'a pas fait grand-chose, il a fait Galop, aucune idée c'est quoi. Il a réalisé quelques épisodes de petites séries et ici et là, dont House of Flowers, qu'on a déjà mentionné qu'un réalisateur avait fait, ou un scénariste, je pense, avait travaillé sur le projet.
Ça me dit rien
non plus. C'est écrit par Jed Elinoff et Scott Thomas, qui sont vraiment beaucoup plus connus pour la série Raven's Home, qui est une série typiquement Canal Disney. Donc une série pour enfants, quasiment faite par des enfants. Et au niveau des acteurs, c'est principalement que des enfants, donc c'est tous des acteurs complètement inconnus. Quoique c'est peut-être des acteurs connus dans le monde de Disney, du canal Disney, je sais pas, je peux aller plus loin que ça dans mes recherches.
C'est pas important.
C'est pas tant important. Il y a un acteur qui est connu, je me suis dit, on va le garder en surprise, on le spoilera pas, mais en même temps, pas sûr que notre critique va convaincre le monde d'aller écouter ce film-là. Donc, je le dis vulgaire, dans le rôle du Père Noël, Danny Glover.
Oui, il l'annonce-tu dans le générique de début? Je vais
pas
porter attention.
Il l'annonce pas dans le générique du début.
Ah.
Donc voilà, c'est fait pour une surprise, mais on voit Santa genre 5 minutes dans tout le film. Gros top.
Ouais.
Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Danny Glover, allez réécouter vos Little Weapons.
Ou Happy Gilmore.
Ou Happy Gilmore, en effet. Hugo, fais-nous un petit descriptif résumé de ce merveilleux film.
Bien sûr. Donc, Naughty Nine, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se prénomme Andy et sa meilleure amie qui s'appelle Dulce.
C'est Dulce le nom de sa mère. Eh, moi, j'ai jamais entendu ça dans le film.
Ouais.
Ok, d'accord.
Donc, c'est ça. Et là, eux autres, ils sont un petit peu des malcommodes à l'école, font des mauvais coups. Ça, lui, Andy, il a une sœur qui s'appelle Laurel, et c'est l'élève modèle, et puis c'est une sportive, tout ça. Et là, elle dit à un moment donné, arrête de faire des niaiseries, tu vas te retrouver sur la naughty list du Père Noël. Et là, lui, de dire, ben voyons donc, ça n'existe pas la naughty list, c'est juste parce que nos parents veulent qu'on soit gentils. Arrive le jour de Noël, et Laurel a un cadeau du Père Noël. Les parents
ne savent pas d'où ce qu'ils viennent.
Regarde là, il vient d'où ce cadeau-là? Ah, ça doit être ma mère qui a acheté le cadeau sans le savoir. Puis là, Andy, lui, il arrive, puis il a pas ce qu'il avait demandé au Père Noël dans sa liste. Et là, il se rend compte que son ami Dulcé non plus, il a pas vu ce qu'elle voulait. Puis il se dit, coudon, ça doit exister, la naughty list. Le Père Noël existe. Fait qu'on va assembler une équipe de jeunes un peu trouble-fête qui n'ont pas eu de cadeaux du Père Noël. Et on va aller faire un cambriolage au Pôle Nord et on va aller les chercher nos cadeaux que nous, on voulait. Grosso modo, c'est la prémisse du film. C'est comme ça que ça commence. Ouais. Et là, il va assembler une équipe de jeunes enfants, genre la cascadeuse, un peu l'espèce de runaway driver, là, le chauffeur. Ça apprend une gymnaste pour se faufiler au travers du système de sécurité. Ça prend quelqu'un pour défaire les caméras, nanana. Fait que lui, il bâtit son équipe et il décide d'aller au Pôle Nord pour aller chercher ses cadeaux.
Le film est fait un petit peu à la Ocean Eleven.
Oui, c'est la Ocean Eleven pour enfants.
Pour enfants. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. J'ai vraiment essayé pour mes commentaires de mettre dans la peau d'un enfant qui écoute ce film-là. Parce que en tant qu'adulte, arc. C'est de la grosse boîte tant qu'à moi. Mais en tant qu'enfant, probablement qu'en ayant un étant kid de 8 ans qui écoute ça, j'aurais probablement eu du plaisir à écouter le film. J'aurais trouvé probablement ça sympathique, probablement que j'aurais ri à quelques blagues que en tant qu'adulte tu trouves zéro drôle, mais qu'un enfant trouve probablement drôle.
Mais moi j'ai ri une fois, je vous en reparle tantôt.
Mais j'ai vraiment essayé de me mettre dans ce pot-là parce que le film est. C'est pas un film pour adultes, c'est un film fait pour les enfants, avec des enfants. Je rajouterais quasiment fait par des enfants. Donc, dans cette prémisse-là, dans cet état d'âme-là, c'est pas un si mauvais film que ça. Dans le sens que je me mets dans la peau d'un enfant. Okay? En tant qu'adulte, en tant que critique Yugi, c'est un très mauvais film. Mais si vous avez des enfants, peut-être les plugger devant le film, puis les laisser l'écouter ça chacun de voir pendant que vous buvez dans la cuisine.
Tu parles d'un des pires conseils de parentalité du monde.
Je ne suis pas parent.
Mais je ne sais même pas à quel point ils vont trouver ça intéressant, mais continue.
Ben, je ne sais pas. Moi, je me dis probablement qu'il y a peut-être une couple de kids qui ont aimé ça. C'est pour ça que je dis que l'idée du Ocean Eleven n'est pas mauvaise.
Ok, dans cette optique-là,
je trouvais ça quand même original d'apporter ça. Ça a marché pour les adultes. Peut-être que ça peut marcher pour les enfants.
Ok.
Cependant, il y a un paquet d'affaires qui marchent pas.
Ah oui.
Qui sont complètement ridicules. Oui. Le film se passe où? Quelque part aux États-Unis. On sait pas.
Massachusetts.
Et overnight, en empruntant, entre guillemets, un avion de livraison de la compagnie de papa, réussissent à se rendre au pôle Nord. En une heure à peu près, parce qu'il leur reste 2 heures pour faire leur mauvais coup puis revenir sans se faire pogner. Leur time frame dure environ peut-être 5 heures, du Massachusetts au Pôle Nord puis du Pôle Nord ça marche pas, les maths marchent pas, il y a aucune maths qui marche là-dedans.
Si on accepte que le Père Noël est au Pôle Nord.
Mais c'est ça. Mais encore là, faut accepter que c'est un film pour enfants qui probablement ne verront pas le film sous cet angle-là. On a que l'enfant qui écoute ce film-là se fout complètement que ça soit impossible de partir d'un état à haut pôle nord dans une soirée. Là.
Oui.
Mais en tant qu'adulte.
Mais c'est vrai que le Père Noël, il fait toutes les maisons en une nuit.
Père Noël est magique. Ces enfants-là ne l'étaient pas.
Ils sont pas magiques.
Ces enfants-là ne sont pas magiques.
Ah, voilà.
au niveau de l'acting, c'est des enfants, c'est dur un petit peu de critiquer leur jeu d'acteur. Je veux dire, c'est des enfants, des bons enfants acteurs, il y en a pas beaucoup dans
mon monde. Problème avec ça, c'est qu'ils sont trop vieux. Ça me dérange.
Ils ont l'air en effet trop vieux, à part la fille qui est un gars qui est une fille, je sais pas trop, là, la face cute là.
Ouais, c'est un petit gars, c'est un
gars. C'est un gars, il est bobo, hein? Il y a du travail à faire là-dessus, mais en tout cas.
Mais oui, ça c'est le plus jeune, mais c'est...
Le japonais, il est quand même, il a l'air beaucoup plus jeune que les autres.
Oui, mais encore
il a l'air d'être en même école, quasiment même année, mais ils ont l'air d'avoir genre quasiment 4-5 ans de différence.
C'est ça l'affaire, tu sais, parce que le personnage principal, genre, a pas l'air
d'un enfant du primaire.
Non, zéro. Puis en plus, tu sais, quand tu vas voir, il y a quel âge dans la vraie vie, il y a genre 14 ans.
Ah,
là, tu te dis, ouais, ça marche pas, tu sais, qu'ils soient dans la même école primaire. En tout cas. C'est sûr que c'est mes yeux d'adulte, là, mais...
Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que je dis ça. C'est une autre, on l'écoutait en tant qu'adulte. Un enfant qui l'écouterait verrait peut-être pas ces détails-là. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un film pour enfants, avec des enfants, probablement fait par des enfants. Je répète ce commentaire-là. Je pense qu'il y a une différence entre un film Disney et un film Canal Disney.
Oui, mais ça me fait penser.
C'est deux mondes complètement différents.
Ouais, tu sais, au niveau de l'humour puis de l'espèce d'acting, tu sais, genre That's So Raven puis Anna Montana.
Raven's Home.
C'est ça.
Les scénaristes, c'est ceux-là qui ont fait la série Raven's Home. Ouais, c'est exactement le même concept.
Mais c'est vraiment comme ça.
C'est ça.
Au niveau de l'humour puis des expressions, des acteurs, quand ils arrivent à un événement, les parents sont les parents les plus crédules et vraiment sont tellement mauvais.
Ils sont imbéciles, les parents.
Là, tu fais... Mais comment tu fais pour te faire bourrer de mentir de même?
Tu comprends peut-être pourquoi les enfants cherchent l'attention.
les parents sont vraiment mauvais. J'ai quelques notes.
Allez.
Ils ont, au pôle Nord, c'est la neige la plus solide que j'ai jamais vue. Genre, ils marchent et ils font aucune trace dans la neige. Tu sais, ça c'est des détails, mais tu te dis...
C'est de l'effet visuel de Canal Disney.
C'est
une vraie production avec un petit peu plus de money aurait fait attention à ce détail-là. Ouais, donc, un film à la Canal Disney,
il marche sur du ciment peinturé blanc.
Ah ouais.
Tu sais, tu fais comme ça, ça marche pas. Puis moi, pourquoi les elfes, c'est des adultes?
En effet.
Ça m'a bugué quand ils arrivent au Pôle Nord.
Toutes les elfes sont des adultes.
C'est tous des adultes. Il y a 5 enfants qui rentrent, personne ne pose de questions.
À mon avis, c'est peut-être justement pour faire le contraste entre les personnages principaux sont des enfants, donc les elfes seront des adultes, parce que la majorité des films de Noël, c'est l'inverse. T'as des adultes, puis les elfes ont l'air d'enfants parce qu'il n'y a pas d'autres enfants dans le film. Ils ont peut-être essayé de vouloir faire un contexte. Là, je vais chercher ça loin.
Ils donnent beaucoup trop de mérite.
J'essaie de rester objectif dans la critique.
Ah, oui, mais on n'est pas obligé. Mais c'est ça. C'est pas très bon.
Non, pas du tout. Même au niveau de la fin. Ah, la fin, j'ai trouvé ça terrible. Que le kid reste. Ouais. Tout le monde se sauve.
Oui. Là, tu dis vulgaire.
Ah, regarde, je m'en contrebalance de divulguer ce film. Je suis convaincu que les gens n'iront pas écouter ce film. Bref, tous ses amis s'en vont, repartent en avion. Finalement, décident, oh non, on ne le laissera pas tout seul, on va revenir. T'as genre un délai peut-être de 5 minutes. L'avion a eu le temps de décoller, de voler vraiment très loin et de revenir et de ratterrir et de refaire tout le trajet, tout ça en 5 minutes.
Mais ils font
Alors que dans le film, ils l'ont fait quasiment en une heure. Je suis comme, wait, what?
Mais ils font Massachusetts pour le Nord en une heure.
Il y a ça aussi.
En 5 minutes, ils en font quand même un bon bout.
Il y a ça aussi. Mais bref, la personne qui s'occupait du time frame de ce film-là, probablement, était bien pactée.
Ben, pour un, dans le fond, c'est
ou c'était un enfant.
C'est ça. Mais c'est la théorie de film faite pour des enfants, fait qu'on s'entorche de tout ça.
Ouais.
Ça suit la lignée.
Ben, c'est ça. C'est pour ça que
Et la seule réplique que j'ai ri, c'est à la fin, la dernière réplique du film. Quand le Père Noël, il dit « I need the naughty nine ».
Oui.
J'ai fait
« Oui.
Comme ça. J'ai ri comme ça, genre
« C'est ça.
Voilà. C'est le plus gros rire que j'ai eu du film.
Un petit rire cute plus qu'autre chose. Hein.
Oui, c'est ça.
Quasiment un rire de sympathie. Là.
Ouais, mais mon problème avec ça, c'est ils vont faire un 2.
God, I hope. Ben, remarque, comme je dis, c'est du Canal Disney.
Ouais,
Puis le pire, c'est que je te l'ai dit en plus, c'est que le lendemain que j'aille écouter le film,
oui.
Je pitonne à la télé, je tombe au canal Disney et ils présentent en primeur de 99. Donc c'était clairement un film fait pour le canal Disney,
ouais,
mais qui ont sorti sur Disney Plus parce que ça reste du Disney puis ils voulaient le sortir pour le temps des fêtes. Mais c'est vraiment un film à la style canal Disney.
Oui, oui.
Donc voilà. Critique en ligne. IMDb lui donne quand même un généreux 5.2.
Ah, oh, c'est bon.
C'est ça, 5.2 sur IMDb. Rotten Tomatoes, aucune critique. Sauf au niveau de l'audience. 50 et plus reviews. 75%.
Ben, peut-être qu'il y a des enfants qui ont des comptes. Hein,
c'est... Ou comme ça on l'a déjà mentionné, il y a du monde qui sont payés pour aller donner des bonnes notes.
Oui, absolument.
Peut-être aussi.
Du monde de Disney.
Peut-être du monde du Disney ou des familles. La famille du monde de Disney. Bref. Ma note à moi, c'est un... On m'a donné 4. 4 parce que, comme tu sais, du point de vue enfant, je pense que ça peut marcher. Mais c'est tout. C'est vraiment le plus gros point positif entre guillemets que je peux donner au film. C'est que c'est un film pour enfants. Peut-être que des enfants en bas de 10 ans pourraient aimer ça.
Moi, je vais... dans l'optique de qu'est-ce qu'on va critiquer aujourd'hui, ce sera mon étalon de base. Je vais lui donner 5.
Oh, quand même! OK, d'accord. Donc,
ben, c'est pas bon, 5, ça passe pas, bon, ça passe 60%.
C'est pourri, mais tu restes dans la note IMDb anyway. Bref, personnellement, je ne recommande pas ce film.
Non, moi non plus, 5, c'est pas bon.
Mais comme je dis, si vous avez des enfants en bas de 10 ans, peut-être qu'ils pourraient peut-être aimer ça. À vous, en tant que parent, de juger. Mais ça passe pas, c'est un très mauvais film de Noël. 99 sur Disney+. On passe à côté. Prochain film à l'agenda, un film de Netflix, d'une grosse durée, encore une fois, de 1h22, qui m'a paru quasiment 4 heures. Film qui s'appelle Best Christmas Ever, réalisé par Marie Lambert, qui a réalisé Pet Sematary.
Pet Sematary, genre.
Pet Sematary que je voyais l'année 93.
Eddie Furlong.
Je sais pas si c'est le même, là, mais ça, c'était une vieille production.
Ok, mais c'est ça.
Qui a réalisé aussi The In Crowd. Puis c'est pas mal ça. Des petits épisodes ici et là, mais sans plus ni moins. Écrit par Todd Calgi-Gallicano. Todd Calgi-Gallicano. C'est beau comme nom. Hein. C'est son premier scénario.
Non, pas d'autre.
Au niveau des acteurs, il y en a 3 qui sont connus.
Oui.
Parce que le quatrième, il me disait absolument rien. L'étalon italien, il me disait que dalle. On a Heather Graham, qui joue le rôle de Charlotte, qu'on a vu dans les films Austin Powers, dans Boogie Night. Et je regardais sa filmographie, c'est ça. Plusieurs autres films indépendants, mais de vraiment connus, c'est pas mal tout. On a l'excellente Brandy, qui joue le rôle de Jackie. Brandy étant une chanteuse.
De Brandy puis Monica.
Ouais, exactement. Tu sais, des années 90.
Absolument.
Qui a fait 2 films, dont I Still Know What You Did Last Summer.
Ah, c'est ça qu'on cherchait.
Et qui a joué également, je pense, dans une des suites des comédies de Scream.
Ouais, Scary Movie, je crois.
Ouais, c'est ça. Donc, bref, elle a vraiment rien fait en matière de film de bon. On se le cachera pas. Et on a également Jason Biggs dans le rôle de Rob, qui est le mari de Charlotte, qu'on a vu dans American Pie, dans tous les American Pie.
C'est
sa grosse marque de commerce. Donc, si vous avez vu les American Pie, vous savez très bien qui est Jason Biggs. Grosso modo, l'histoire du film... c'est un couple marié avec deux... Ils ont deux enfants. Hein?
Oui.
Ils ont deux enfants. Une petite fille qui pense avoir des super pouvoirs, puis un petit garçon grassouillet qui a un toutou de singe, puis qui aime bien gros son toutou de singe. Donc Charlotte et Rob. Et ils reçoivent à chaque année une lettre de Noël de leur ami Jackie, de la vie de Jackie, de la famille de Jackie. Comment va celle... À chaque année... Jackie a envoyé une lettre à tout le monde pour leur dire comment a été notre dernière année.
Bref. Jackie étant anciennement la meilleure amie du secondaire de Charlotte.
Exactement. Puis elle a fait partie du band
de
Rob, joué par Jason Biggs. Ils ont été couple aussi ensemble.
Un petit flirt certains temps à l'époque.
Bref, c'était un trio d'amis à l'époque du secondaire.
Moi, genre.
Secondaire, c'est ça. Donc, à chaque année, Jackie envoie une lettre pour un petit peu se vanter, on dirait quasiment. C'est l'impression que Charlotte a.
Mm-hmm.
Noël arrive, donc Charlotte et Rob et la famille s'en vont chez la sœur de Charlotte. Mais leur garçon a décidé de jouer un mauvais tour et de changer l'itinéraire pour la maison de Jackie à la place. Et clairement, ils sont jamais allés nulle part parce qu'ils s'en rendent pas compte, quoi, qu'ils mentionnent que sa sœur vient de déménager. Sa sœur vient de déménager, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont réussi à pas se rendre compte qu'elle n'allait pas du tout chez sa sœur. Ils se retrouvent donc à la maison de Jackie. Donc Jackie les invite et ils passent Noël dans la maison de Jackie et sa famille. Et Charlotte est très, très, très jalouse de Jackie et veut à tout prix prouver que c'est une menteuse puis qu'elle ne vit pas ce qu'elle dit avoir vécu. Et là, le film part là-dessus pour le restant du film.
Mmh, oui.
C'est pas mal ça, la prémisse du film. Bedu, qu'en as-tu pensé?
Mention spéciale à mon épouse, qui à 29 minutes 14 secondes a dit « Ah non, c'est assez, Chris, on arrête ça. » Donc, je l'ai arrêté. Et puisque je suis un professionnel,
absolument,
j'ai repris la lecture du film plus tard et je l'ai complété.
Voilà. Oh! Moi, je l'ai fait d'une shot, hein.
Ouais.
Je l'ai écouté d'une shot. J'ai écouté les deux back-to-back d'une shot.
C'est mauvais. Le seul qui est moindrement...
crédible.
Pas pire, le crédible, c'est Jason Biggs. Qui est bien. C'est un acteur qu'on a revu un petit peu dans d'autres films. Là. Je pense qu'il est sous-estimé. C'est un gars qui est capable de bien jouer. Écoute.
Mais en même temps, son personnage est très neutre. Dans tout le film. Il n'y a pas vraiment beaucoup de besoin de faire bien des expressions, bien des commentaires.
Non, je sais bien, mais c'est... Écoute, visuellement, c'est dégueulasse.
Ouais, c'est
des écrans verts par-dessus écrans verts.
Les films Hallmark font quasiment des meilleurs films que ça. Là.
Ouais, c'est comparable à un film Hallmark. Tu sais, à un moment donné, là, Charlotte, elle tombe dans la neige, là. Elle se relève, elle a zéro, tu sais, c'est... Là, tu te dis, mais là, je suis gossant avec ma neige, je
me suis... Ben, tu vois, je me suis fait le même commentaire à un moment donné, tes voix marcher vers la voiture.
Et là, il marche jusqu'au genou,
mais tu vois très bien le sol, est vert, c'est propre, tu sais, fait que tu vois que c'est genre un genre de mousse bizarre.
Ah, c'est... Honnêtement, c'est très mauvais.
Ouais.
Je vais sortir mes notes.
Au niveau des blagues, il n'y a pas beaucoup de bonnes blagues. Il n'y a pas beaucoup vraiment de bonnes jokes où j'y ris, à part les quelques commentaires de Jason Biggs, qui réagit en tant que mari de sa femme qui est complètement folle.
Ouais. Mais à la base. Il y a beaucoup
de belles petites blagues là.
Ma note principale, j'ai quand même noté les Cheetos, qui est un placement de produit définitivement.
Absolument.
La neige la moins collante ever. Mauvais acting. Mais principalement, là, la base de là, c'est que l'histoire est zéro crédible. Tu peux pas croire à ça. T'sais, je comprends, Charlotte, de pas croire à la madame. Quoique, plus ça va le film, tu te dis, bon, finalement, c'est tout ce qu'elle raconte. En gros, c'est vrai, mais c'est crédible, mais de la façon dont...
La façon que c'est amené n'est pas crédible.
Toutes les explications...
La façon que Charlotte agit n'est pas crédible. La façon... Les interactions entre elle et son amie Jackie ne sont pas crédibles.
Non, ils ont pas l'air à les amis.
Jackie n'est pas crédible. Brandy, quelle mauvaise actrice, my God. Mais
le gars qui fait son mari, qui est un latino, professeur de karaté... Ça aussi, je peux vous raconter des histoires du film parce que écoutez-le pas.
Absolument.
Charlotte est dans le grenier, puis là, elle fouille pour essayer de trouver une menterie. La lumière est allumée. Eux autres, ils arrivent sur l'entrefrais. Donc, comment il s'appelle le mari? Sans contre-torche. Valentino.
Ouais.
Il ferme la lumière pour kicker le voleur.
Ouais.
Moi, là, si je rentre dans une pièce dans ma maison, puis que la lumière est allumée, je vais reconnaître la personne qui est en face de moi, puis je vais pas la kicker dans la face. Là, lui, il a fermé la lumière avant de kicker Charlotte, puis après avoir rallumé la lumière, oh, mon Dieu, j'ai kické Charlotte, je suis désolé. Voyons.
Mais il y a beaucoup de moments innocents comme ça, le bout de la montgolfière, hein.
Non, mais ça n'a pas de Jésus-Christ de
bon. Ou là, ça marche pas, ok, c'est beau. Rentre dans Charlotte rentre dans la montgolfière pour corriger le problème. Sort de la montgolfière. Ok, c'est beau, merci. Et là, elle commence à s'envoler. Oh, hey, voulais-tu monter? Attends un peu, je te pitch l'échelle. Voyons, vierge, vous étiez tous les deux à terre. Elle était dedans. Oh, hey, voulais-tu venir? Voici l'échelle. Ben, toute la misère du monde a monté la petite échelle de jouet. Je suis comme, mais voyons donc.
Mais bon, après ça, avoir descendre l'échelle,
pour pogner le traîneau. C'est le bout de la montgolfière est complètement absurde.
Le bout de l'enfant génie, ça marche pas, là. Parce
non
que là,
plus.
Enfin, Jackie dit que là, sa fille, c'est la plus jeune ever à avoir été admise à Harvard. Puis là, c'est vraiment de l'overacting, ouais. Là. Tu sais, comme, ouais, non, ça marche.
Elle, pas, là. Cette petite kid-là passe le reste du film à essayer de prouver avec le kit de Charlotte puis Rob que Père Noël n'existe pas.
Oui. Ah, oh, non, c'est pas bon.
C'était comme un peu too much. C'était inutile, c'était pas nécessaire. Il y a honnêtement vraiment pas grand-chose de bon à dire sur ce film. Et j'ai honnêtement pas grand-chose d'autre à dire sur ce film. J'ai beaucoup aimé Jason Biggs.
Ouais, je suis comme content de le voir. Il y avait un côté nostalgique. Là, oh, on l'a connu avec les American Pie, surtout. Puis je pense que...
Puis je pense qu'il joue un bon adulte. Je pense qu'après avoir joué beaucoup d'adolescents innocents, il joue un bon adulte. Son acting était beaucoup plus crédible que celui des deux autres. Là, Brandy qui chante, pourquoi? Pourquoi?
Mais c'est la seule affaire qu'il est capable de faire.
Ben c'est ça, voilà, exactement. T'sais, en rehearsal, en train de pratiquer la pièce de théâtre qu'on va voir. Ah, oh, j'ai une idée! Elle prend le micro puis elle se met à chanter. Mais ça sert à rien. Ça donne rien. Tu m'amènes rien à l'histoire. T'as apporté rien du tout à l'histoire. T'as rien changé whatsoever. Pourquoi tu chantes? À la limite, à la fin, elle chante. Ok, c'est la toune de la fin. C'est beau, c'est correct.
Mm-hmm.
Mais la toune, lors de la pratique, je comprenais pas pourquoi ça a servi absolument à rien. Sur ces bonnes paroles, je pense que les critiques parlent d'eux-mêmes également pour ce film. IMDb lui a donné 4.4, ce qui n'est vraiment pas bon, surtout pour IMDb. Rotten Tomatoes, il y a eu des critiques, 17 reviews de critiques qui ont osé le critiquer ce film, mais il a fini à 41% au niveau des critiques. Et au niveau de l'audience, plus de 100 reviews au niveau de l'audience, et ça termine avec 19%. C'est très mauvais. Metacritic lui donne également 36%. C'est de très, très mauvaises notes pour ce film. Bedu ta note. Sachant que tu as donné 5 sur 10
sur
99.
Ouais, c'est ça, mais là, je vais être pas mal à. T'avais donné combien à Eternals? 4?
Je pense que j'avais donné 3.
Ah, ok. Bon.
Faudrait revérifier, mais.
Je vais donner 3, c'est vraiment, vraiment mauvais.
Ah, moi, j'y vais avec un 3.5, juste un petit peu en dessous de Naughty 9. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a comme absolument rien de dire. C'est du mauvais acting, c'est une mauvaise histoire, c'est mal ticelé. C'est de mauvais effets spéciaux, entre guillemets. C'est pas drôle. C'est la promotion de Brandy qui essayait de faire un comeback à l'écran, un petit peu comme Lindsay Lohan l'année passée avec Falling for Christmas.
Falling for Christmas!
Voilà, ce n'est pas un bon film. Donc, à éviter, s'il vous plaît, si vous avez envie d'écouter un film de Noël et que vous voyez « Ah, Best Christmas Ever! Ah, Heather Graham, Jason Biggs, c'est des bons acteurs! » Non! Passez à autre chose. Allez chercher autre chose. Réécoutez vos classiques. Parce que honnêtement, des films de Noël... Là, c'est dur. J'ai l'impression que c'est dur de faire un bon film de Noël. Autre que les classiques, là.
Ouais, mais les classiques, est-ce que c'est parce qu'ils sont bons ou c'est parce qu'on a une nostalgie?
Il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Parce que j'ai l'impression que des bons films de Noël, il n'y en a pas. C'est tout le temps la même sauce, c'est tout le temps la même rengaine, c'est tout le temps le même scénario, quasiment. Il n'y a rien de nouveau en matière de film de Noël.
Non.
Je trouve ça difficile de trouver un bon, nouveau film de Noël. On a eu un l'année passée. Mais c'était tiré de Christmas Carol, c'était tiré d'un classique.
Oui.
C'est ça. Ils ont comme rien réinventé de nouveau, autre que là, c'était musical, puis c'était plus drôle.
Mm-hmm.
Mais c'était quand même tiré d'un classique. Je pense qu'on n'est plus capable de faire des nouveaux bons films de Noël. Et je pense que le monde devrait peut-être commencer à arrêter de faire des bons films de Noël. D'essayer de faire des bons films de Noël. Je pense. Là-dessus, Best Christmas. 3.5 sur 10, notre critique. Évitez à tout prix, écoutez autre chose.
Je suis en train de faire la... J'ai googlé les meilleurs films de Noël.
OK.
On finira avec ça.
On finira avec ça. Prochaine étape, on se retourne vers une série télé du temps des fêtes. On a critiqué la saison 1 l'année passée. On critique la saison 2 cette année. The Santa Clauses.
Oui.
Qui m'en veut d'être Tim Allen, qui reprend son rôle du Père Noël. Je ne sais même pas c'est quoi le nom de son... C'est Jack, je pense que c'est Jack, le nom du personnage. Ouais, c'est Jack qui joue le Père Noël. Avec Elizabeth Mitchell, qui reprend son rôle de Mère Noël également. Connue aussi sous le nom de Carole. Et leurs deux enfants, Austin Kane, qui joue le rôle de Cal, et Elizabeth Allendick, qui joue le rôle de Sandra. Donc, les acteurs reprennent leur rôle, ainsi que les mêmes acteurs qui jouaient les elfes dans la saison 1 reviennent pour la saison 2. On a un méchant, cette fois-ci, contrairement à la saison 1. On avait un méchant la saison 1, mais tu sais... Il était comme pas méchant depuis le début. Il a comme viré méchant vers les deux derniers épisodes à peu près. Là, on a vraiment un méchant du début à la fin qui est pas tant méchant en soi. Il est plus, on dirait plus un robineux. un vieux robineux qui a perdu un petit peu la touche. Bref, Eric Stonestreet joue le rôle de Mad Santa, donc un Père Noël qui a eu une très mauvaise phase, qui a créé quasiment une guerre civile au pôle Nord entre les noms et les
gnomes. Il en faisait référence, je pense, dans la saison 1 aussi.
C'est possible, c'est possible. Donc, il y a eu une guerre civile il y a des millénaires, finalement. Les elfes ont gagné en transformant Mad Santa en petit bonhomme... Comment tu l'appelles, non? Nutcracker. En français, j'ai pas de nom. Un casse-noisette, voilà, un petit bonhomme casse-noisette. Qu'un des elfes a fini par revendre sur le marché noir afin de régler ses dettes. Et éventuellement, ce casse-noisette finit par recevoir un petit peu de magie du pôle Nord et se retransforme
en Mad Santa.
Et là, ben, il cherche à vouloir se venger. Il essaie de trouver le moyen de retourner au pôle Nord pour vaincre le Père Noël actuel qui était malin. Grosso modo, c'est ça. C'est la saison 2. Il y a 4 épisodes de sortie présentement. Je pense qu'il y en a 6 au total. Il y en avait 6 pour la saison 1.
Ouais.
Donc, je m'attends à 6 épisodes.
5, parce que là, je regarde le total. C'est 11 épisodes pour Tim Allen. Fait qu'il en resterait un à sortir parce qu'il est sur 2 saisons.
Probablement. Donc, bref, un ou deux épisodes la saison.
À moins qu'il y ait quelque chose de pas sorti encore.
Probablement. Les épisodes sortent le... mercredi. J'ai envie de dire le mercredi, mais c'est un épisode par semaine. Donc, le prochain va sortir au courant de la semaine.
Mais selon la liste, il en reste un à sortir.
Il en resterait un. Bon, voilà. Donc, le dernier épisode sort très bientôt. Moi, j'ai trouvé ça plus... Je trouve la saison 2 plus comique que la saison 1. J'ai l'impression que les jokes sont un petit peu mieux ficelés que les blagues de la saison 1, où ils étaient peut-être un petit peu plus enfantin bébé gaga. Là,
c'était Bibi et Rapoil.
Ouais, c'est ça. C'était de l'humour très, très simple, quasiment pour faire rire les petits-enfants. Là, on a comme remonté une coche un petit peu. On a des jokes un petit peu plus adultes, des jokes un petit peu plus familiales même, je dirais. Surtout entre Cal et Sandra. J'aime beaucoup la relation familiale entre les quatre. Sandra découvre qu'elle a des pouvoirs de sorcière, disons. Puis Cal a des pouvoirs de Père Noël. Donc, tranquillement, il se fait former à être le prochain Père Noël.
Je le trouve insignifiant.
Ah, je déteste l'acteur. Je n'aime pas le personnage de Cal. Je préfère le personnage de Sandra.
Oui, oui.
Qui parle aux animaux également. Oui. Et qui d'ailleurs en a mal à la tête parce qu'elle fait juste entendre les petits animaux, même les araignées. Je trouve ça très drôle.
Le personnage de Cal.
Mais Cal,
moi, il enlève un. Il fait enlever des points à la série.
Moi aussi. J'ai
de la difficulté à l'écouter.
Ouais.
Parce qu'il m'énerve.
Ouais, il est très gossant, en effet. C'est le petit gars. On dirait qu'il a genre 6 ans, puis qu'il est jamais content de ce qu'il a, puis qu'il.
Ouais, ça, puis l'autre aussi, le personnage de Noel.
Ah, l'elfe en charge durant la saison 2. Là,
ouais, parce que dans le fond, c'est normalement, on connaissait Betty, qui était l'elfe en charge de tout ça. Elle a quitté, elle a été obligée de quitter par un règlement. J'aime le concept des règles, des lois.
Ouais, c'est sympathique.
Ça amène des événements sans avoir trop de trucs à préparer d'avance. Ouais. Là, il arrive une petite carte à règlement.
Il y avait un règlement.
Elle doit quitter, puis là, c'est Noël qui est son amoureux dans puis qui prend en charge, mais il est vraiment tata.
Ah, il est con.
C'est un simple d'esprit, puis ça me gosse un peu.
Ouais. Les elfes, d'ordre général, ne sont pas super le fun à écouter. Il y en a peut-être un ou deux. J'aime bien le responsable de la sécurité. Qui est toujours en train de chialer pis foutre la merde.
Ouais, il est quand même drôle.
Puis il y en a un autre, je pense, qui est plus au niveau de la technologie. Un petit peu frisé, je sais pas de son nom.
C'est Crouton.
Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ces deux-là, je les trouve quand même sympathiques. Ouais, mais d'ordre général, la majorité des elfes sont un petit peu gossants. Mais on met pas l'emphase sur eux.
Non.
On met beaucoup plus l'emphase sur la famille du Père Noël et sur Mad Santa et sa petite gnome qui est tout le temps avec elle. Que je trouve quasiment très sympathique de tout le temps toujours vouloir tuer tout le monde. Mais elle t'a l'air d'avoir 8 ans avec tes zéro menaçantes. Ouais.
Tu sais, parce que dans la saison 1, il envisageait la retraite.
Oui.
Puis là, il voulait passer le flambeau. Puis là, à la fin de la saison 1, il disait, on va faire ça en famille. Puis finalement, il n'est pas obligé de prendre sa retraite. Mm-hmm. Parce que là, le gars qui avait Simon, je pense qu'il s'appelait.
Ouais.
Ben, lui, il avait comme vu trop grand. Tout ça. Puis là, il décide, on va faire ça en famille. C'est un peu l'amorce de la saison 2, où il fait sa tournée en famille. Puis il veut impliquer tout le monde. Puis tout ça. Fait que c'est un peu ça, mais c'est correct, là, mais...
Oui, mais c'est pas la série
du siècle, j'ai pas noté qu'est-ce qu'on avait dit comme note la saison...
Faudrait réécouter les épisodes, parce que je m'en souviens pas non plus. Je pense que moi, je n'avais pas donné une super de grosse note. J'avais de la misère à embarquer dans la saison 1.
Ah, il a fallu que je me...
Parce que je trouvais ça je trouvais ça très bébé gaga, je trouvais ça très canal Disney. J'avais de la misère à embarquer. Je trouvais l'histoire trop simpliste. Là, j'ai du plaisir à écouter. J'ai beaucoup plus, du moins, de plaisir à écouter la saison 2. Je me suis clenché les 4 épisodes qui font une durée d'une demi-heure. Donc, ça s'écoute quand même relativement très bien.
Mm-hmm.
4 épisodes, c'est 2 heures. C'est quasiment les films poches qu'on a écoutés, mais avec plus d'humour sympathique. Je peux confirmer que j'aime beaucoup mieux la saison 2 que la saison 1. J'ai beaucoup plus de plaisir à l'écouter. Je trouve l'humour beaucoup plus agréable. Je trouve la prémisse plus agréable. Je trouve l'histoire plus agréable.
Mm-hmm.
Voilà. On a-tu d'autres choses à dire?
Ben, pas vraiment. Là. C'est toujours un peu plus difficile. Là,
si on parle d'effets spéciaux, très similaires à la saison 1.
Ouais, c'est ça. Il y a certains moments où tu vois clairement...
C'est ça. Tu vois que c'est un petit peu mal fait. Que ça aurait peut-être pu être mieux fait, mais à quel point ils ont du budget pour faire ça, c'est là qu'on sait pas.
Ouais.
Mais ça m'a pas nécessairement dérangé. La musique, y a pas tant de musique vraiment, c'est du musical plus qu'autre chose.
Ouais, y a comme des petites tunes qui pop de nowhere à un moment donné, c'est comme pas nécessaire. Là.
Ouais.
C'est quoi donc?
Je pense qu'ils ont voulu mettre un petit peu
dans c'était dans la pub, là, dans le premier épisode, il y a comme une pub là, des bad guys qui arrivent. Puis Puis dans la saison 1 aussi, à un moment donné, il y avait comme dans le corridor, il y a comme une espèce de tune qui part de même de nulle part. Hein? Oui, ok, d'accord. Pourquoi? Mais je suis comme pas sûr.
Bref, si on va pas venir, passons aux notes immédiatement.
Bien sûr.
Je pense qu'on a pas vraiment grand chose d'autre à dire. IMDb 6.3. C'est quand même bien, c'est une note, je pense, générale à IMDb. Aucune surprise sur ce site-là. Rotten Tomatoes, au niveau des critiques, 57%. Au niveau de l'audience, 66%. Mais la note ne mentionne pas si c'est saison 1, saison 2 ou les deux combinés, parce que c'est une série télé. C'est pas super mentionné, je pense que c'est l'ensemble de l'œuvre. Et sachant que la saison 1 était beaucoup moins bonne.
Sur IMDb, tu l'as pas même par épisode, mais tu as les notes par saison.
Mais c'est ça. Fait que c'est sur Rotten Tomatoes, c'est les deux saisons combinées. Et sachant que la saison 1 était moins bonne, je pense que c'est, à mon avis, ça serait pour ça que la note était peut-être plus basse.
Mm-hmm.
Ma note à moi, au coup de mouche, je donne 6.5. C'est bien. C'est une série que j'aime écouter présentement, mais je l'écoute là parce que c'est le temps des fêtes. je ne réécouterai plus jamais cette série par la suite. Là.
Moi, je vais donner un 6, considérant que j'ai donné 5 à Naughty Nine. Je veux dire, c'est correct, là, ouais. Mais je ne suis pas...
pas la série du siècle, c'est non. Sympathique. Si vous cherchez quelque chose à écouter durant le temps des fêtes, autre que les classiques, ouais. Ça peut être une option.
Il y a quand même des liens avec Santa Claus. Je dis,
avec les films.
L'idée du retour, de faire une série avec le personnage de Tim Allen, qui fait quand même, là, qui reprend son personnage, c'était une bonne idée là, pour meubler Disney+. Là, ça reste que ce qu'ils veulent, c'est produire du contenu.
C'est ça.
C'est correct. Mais tu sais, je veux dire, si vous avez aimé la saison 1, ben écoutez la 2. Si vous n'avez pas écouté encore la 1, ben essayez, puis on s'en repart.
Sinon, vous pouvez même skipper la 1 puis commencer à la 2. Pas vraiment besoin d'écouter la saison 1 pour écouter la saison 2. Il n'y a pas énormément de liens entre les deux saisons. Un petit peu au niveau familial, peut-être.
Ouais.
Pour comprendre un petit peu la mécanique de la famille. Mais à part de tout ça, il y a le premier épisode qui font des liens puis c'est tout. Après ça, on part carrément sur un autre sujet. Fait que, tu sais... Bref, faites votre idée. Faites comme d'habitude. Vous avez écouté ce qu'on a à dire là-dessus. Si vous avez envie d'aller l'écouter, tant mieux. Si vous n'avez pas envie d'aller l'écouter, tant mieux. Tout le monde est capable de faire sa propre opinion. Santa Claus 6.5, la note de la critique de Yugi. Sur Disney+, deux saisons, dernier épisode sort très prochainement. Donc, en fait, non, il est déjà sorti au moment où on sort l'épisode. Pas mal certain que l'épisode est déjà sorti au moment où on sort l'épisode. Donc, voilà, vous pouvez aller le binge-watcher si vous voulez. Ça va vous durer 2h30.
Ouais, c'est correct. Là, je veux dire,
si vous savez pas quoi écouter,
des fêtes, les congés,
vous avez envie d'écouter de quoi pour Noël, puis vous trouvez rien, ben, tapez-vous la saison 2 de Santa Claus, puis je pense que vous allez quand même passer une relativement belle soirée. Surtout si vous avez des enfants, je pense que les enfants vont rire aussi. Voilà. Bedu, tu es en train de nous faire un palmarès.
Hein? Ben oui.
Des meilleurs films de Noël.
Absolument. Bon, deux secondes, j'ai mon liste selon Rotten Tomatoes, donc au niveau des ratings. Le numéro 1 qui est à 100%.
C'est
Meet Me in St. Louis, qui est une comédie musicale avec Judy Garland.
Hey, pas boy.
De 1944.
Okay, c'est ça, voilà.
Fait que là, je ferai pas le décompte au complet, mais je vais aller avec ceux qu'on connaît plus. Je vais faire une mention au film The Holdovers, qui est présentement à l'affiche, que je n'ai pas vu, avec entre autres Paul Giamatti, qui a 96% présentement à l'affiche au cinéma. J'ai vu la bande-annonce et j'étais curieux. Donc, j'ai hâte de voir. On va jeter peut-être un petit coup d'œil à venir. Ensuite, là, dans ceux qu'on connaît bien, The Nightmare Before Christmas, il considère comme un film de Noël.
Oui.
L'animation là,
Tim Burton.
De Tim Burton. Ensuite de ça, sur Netflix, si vous n'avez pas écouté, allez écouter Klaus, qui est un dessin animé de 2019. C'est un des meilleurs films de Noël. Dans les dernières années, est un animé. C'est vraiment, vraiment bon. C'est un postier, un facteur. Il représente un bureau de poste sur une espèce d'île perdue. Et puis, il se ramasse à faire renaître l'esprit de Noël au Père Noël. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Honnêtement, il est à 95% sur Rotten Tomatoes. Je l'ai vu dans ma liste là, Netflix, là, dans les films de Noël. Celui-là, allez l'écouter, c'est sur Netflix. Je crois que c'est fait par Netflix. Là, c'est vraiment, vraiment bon. Là, je skippe les films des années 40. Là. Die Hard est coté comme un film de Noël.
Film de Noël, Die Hard.
Moi, je pense que oui. The Guardians of the Galaxy Holiday Special.
Ah, on en avait parlé, c'est vrai.
C'est court, mais c'est quand même très bon.
Ah, ouais.
Ensuite de ça, là, je suis dans ceux-là qu'on connaît un peu plus. Là. Je vais voir ici, Edward Scissorhands.
Ah, ok.
C'est des anciens films, on parle des années 90.
Du Home Alone puis du Christmas Carol.
J'ai Elf en 2003 avec Will Ferrell. Je comprends pas, mais il y a Batman Returns qui est dans les. Ben, il y a un bout qui se passe pendant.
Le film est sorti durant le temps des fêtes aussi, je pense. Hein.
Mais sans face extraordinaire. Et il y a The Muppet Christmas Carol, mon film de Noël préféré, je le dis à chaque année. C'est très très bon avec Michael Caine qui est excellent. et un, bien sûr, un film de Noël, d'horreur de Noël. J'ai écouté Violent Night l'année dernière, j'en avais parlé, mais là, c'est Christmas Bloody Christmas, un film de 2022, où c'est un robot Père Noël là, qui est sur un murder rampage. Et c'est ça. Il y en a d'autres. Santa Clauses, 1994, est au numéro 41. J'avais le top 100. Là. Il y en a un, c'est 8-Bit Christmas que j'ai vu passer, qui est sur Crave, je crois. Avec Neil Patrick Harris, entre autres, que qui m'intrigue. Je vais peut-être essayer de jeter un coup d'œil. Et si vous avez, dans moi, les meilleurs films de Noël d'horreur, A Christmas Horror Story, j'en avais vu. Je pense que j'en ai parlé avec William Shatner. Honnêtement, là, c'est... on l'a écouté, je n'ai parlé dans ma critique avec un autre film d'horreur de Noël.
Ah, peut-être,
ouais. Ouais, c'est une espèce de d'univers. En tout cas, c'est assez particulier, mais allez réécouter au pire, c'est ma critique de l'année passée. C'est pas mauvais, c'est quand même bien fait. Sinon, Krampus aussi.
Krampus, ouais.
Ouais, qui était dans les films d'horreur de Noël. Sinon, il y en a plein d'autres.
Là, mais... ça, là, t'es sur Rotten Tomatoes Top 100, c'est ça?
Ouais.
On va dire que si les gens cherchent quoi écouter durant le temps des fêtes, que vous êtes tanné de vos classiques, allez faire une petite recherche Top 100 Rotten Tomatoes Christmas Movies.
Ouais.
Puis je pense que vous allez sûrement trouver quelque chose d'intéressant que vous n'avez peut-être pas encore écouté. Donc, voilà.
C'est bon.
C'est ça. Donc, comme je dis, l'épisode n'était pas super court. On a fait quoi, une heure, même pas?
Non, on était à 45 minutes.
45 minutes. Donc, c'est un de nos...
Falling for Christmas est dans le top 100. À 62%. Numéro 97.
Arrgh.
Il est mieux coté que Miracle on 34th Street qu'on voit à toutes les années à Noël.
Donc, bref, ne pas trop vous fier au top 100 de Rotten Tomatoes.
Allez pas trop loin dans la liste.
Clairement, il n'y a pas juste du bon là-dessus.
Restez en haut de 75%. Running for Christmas.
Donc, merci d'avoir été à l'écoute pour ce spécial Noël. Même si on n'a pas vraiment rien mentionné, quelque chose de bon.
Mais c'est dur.
C'est très dur.
Spirited l'année passée, là, qui était qui était vraiment bon.
Mais comme je dis, c'était basé sur Christmas Carol. Donc, c'est très dur d'avoir des bons... film ou série du temps des fêtes.
Oui.
Mais merci quand même d'avoir été à l'écoute du début à la fin, même si c'était vraiment pas des bonnes choses. Merci de nous écouter également pour l'épisode du 10, Critique Capsule Express présenté par moi-même. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler, mais je vais parler de quelque chose. Et le 20, Capsule Express Bedu. Et ensuite, on se revoit le 1er janvier pour notre émission Coup de cœur 2023. Et c'est pas mal ça. D'ici là, je vous souhaite passer un bon temps des fêtes, passer un bon mois de décembre. Profitez de vos congés.
N'attendez pas au 24 avant d'aller magasiner vos cadeaux.
Non, c'est ça. Faites ça là. Faites ça là, maintenant. Une fois que vous avez fini notre épisode, là, allez tout de suite sur Amazon puis clenchez ça.
Mais aussi, là, vous avez le droit de faire votre sapin de Noël maintenant, on est pour le 1er décembre.
Absolument. Et voilà, donc passez un bon temps des fêtes. Amusez-vous. Abusez pas trop des bonnes choses.
Ouais.
Sauf quand c'est le temps. Soyez heureux avec les gens avec qui vous êtes et amusez-vous. Voilà, c'est tout là-dessus. Bonne semaine tout le monde, on se revoit le 10 décembre pour une capsule express. Bye tout le monde, à bientôt.
Oh.